Père, Fils et Saint-Esprit. On a beaucoup glosé sur la nature de la faute du démon. Et fondamentalement, on le sait, je n'arrête pas de vous le rappeler, mais vous le saviez bien avant, Lucifer a voulu se suffire à lui-même. Il a refusé l'amitié que Dieu lui proposait. Pourquoi ? Parce qu'il s'est défié de Dieu. Il a manqué de confiance dans celui qu'il avait créé. Alors il a refusé de monter plus haut dans l'ordre de la foi, où on ne marche qu'à la voix de celui en qui on doit mettre toute confiance. Et parce qu'il ne s'est pas contenté de s'élever contre Dieu, mais également contre toutes les créatures qui sortaient des mains de Dieu, eh bien, Lucifer a voulu que la même défiance habitât le cœur de l'homme. Et voilà ce qui se passe au jardin d'Éden. Il met ce ver pourri au cœur d'Ève et au cœur d'Adam, ce ver de la défiance. Et ainsi défiant à l'égard de Dieu, on sait ce qu'il advint de l'homme et de la femme, ils se détournèrent de ses desseins bons et paternels pour suivre leur propre petite stratégie. Et voilà que tous nous sommes tributaires de cela, tous nous essuyons cette même défiance à l'égard de Dieu sur un mode plus ou moins avoué, ou plus ou moins lavé par la grâce, mais qui est bien authentique, nous sommes défiants à l'égard de Dieu. Nous n'osons pas tout confier à Dieu comme à un père. Voilà donc que Satan croyait la victoire acquise, mais c'était sans compter sur les projets divins et leur perfection, et Dieu, dans sa sagesse, a choisi d'envoyer son Fils. Il a choisi de renouer avec la créature, de sorte que la créature puisse lui faire totale confiance. Pour restaurer la confiance, donc, l'incarnation. C'est ce que nous dit l'Épître, elle nous dit par notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons la hardiesse de nous approcher de Dieu avec confiance. Voilà ce que nous offre Jésus. Si on peut avoir peur du tout autre, si on peut avoir peur du très haut, on ne saurait en aucun cas avoir peur de ce Dieu qui se fait homme et qui vient jusqu'à se rendre vulnérable, qui pleure, qui se laisse toucher, qui se laisse émouvoir, qui souffre et qui se laisse percer le flanc en croix. C'est ce que nous lisons dans l'évangile d'aujourd'hui. J'attire votre attention sur cette phrase étrange, c'est très étrange. Voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais un soldat de sa lance lui perça le côté. Il en sortit du sang et de l'eau. Voyant qu'il était déjà mort, on lui perce le côté. Il n'y a donc aucun but, et cela est clairement avoué par l'évangéliste, il n'y a aucun but de la part des légionnaires. On ne s'assure même pas par ce geste qu'il est mort, on le sait. C'est un fait, il est déjà mort. On ne lui brise pas les jambes et on lui perce le flanc pour un tout autre motif dont l'évangéliste ne rend pas compte. Vous voyez, c'est totalement superflu également au regard de l'économie du salut. C'est totalement superflu parce que Jésus, juste avant de mourir, s'est écrié « Tout est accompli ». Autrement dit, pour le salut de l'humanité, je viens de tout faire. Il rend l'âme et voilà qu'on lui perce le flanc. C'est donc hors de l'économie du salut, si l'on veut. Ça n'était absolument pas indispensable à notre rédemption. Je crois, dans ce geste-là, qu'on ne peut pas déceler d'autres explications que celle-ci. Dieu a permis ce geste du cœur transpercé de son Fils pour que la vulnérabilité de Jésus, pour que la vulnérabilité que procure l'amour infini qui anime le cœur de Jésus et toute sa démarche incarnatrice et rédemptrice, pour que cela puisse nous sauter aux yeux. Ce geste absolument gratuit qui montre que Jésus a accepté, même mort, j'y ai insisté à nombreuses reprises parce que je ne vous cache pas que c'est un texte qui me touche énormément, qui, même mort, veut nous montrer qu'il va jusqu'au bout de l'amour, jusque dans ses ultimes retranchements, jusque dans le superflu le plus déplacé. Voyez, on ne peut pas aller plus loin, je crois, dans l'ordre de la manifestation de cet amour infini de Dieu pour nous, et de la vulnérabilité du cœur de Dieu que dans ce texte très court de saint Jean et dans ce geste très bref du cœur de Jésus ouvert par la lance. Voilà. Et tout cela pourquoi ? Mais tout cela pour restaurer dans le cœur de l'homme la confiance en Dieu. le cœur de Jésus transpercé, c'est ce qui permet, c'est l'instrument voulu par Dieu pour restaurer dans notre cœur la confiance en notre Créateur et Sauveur. Les spirituels des 17e et 18e siècles ne s'y sont pas trompés. Je pense qu'à chaque sermon de la fête du Sacré-Cœur, on vous les ressort. Eh oui, mais comment les contourner, ces grands auteurs-là? Ils ont été voulus par la Providence. La théologie de la Réforme, les excès du jansénisme, ce ne sont pas eux les grands auteurs du 17e et du 18e, je vous rassure, mais la théologie de la Réforme et la théologie du jansénisme ont encore qu'on puisse trouver de très belles pages chez l'un et chez l'autre. Bon, j'arrête là, pour la paix. La théologie de la Réforme et les excès du jansénisme, donc, n'ont cessé d'imposer partout une image d'un Dieu mauvais, un Dieu qui, à force d'être dur et juste, en devient mauvais. Un Dieu qui flingue son Fils alors qu'il est pure innocence. Un Dieu qui a rendu coupable son Fils. Il faut lire les pages de Luther. Il a rendu coupable son Fils. Il était voleur, adultère. Il tenait Jésus, non seulement pour portant nos péchés, mais comme accusant la responsabilité de nos péchés. Avouez qu'on est allé un peu loin dans la conception qu'on se faisait de Dieu et du Rédempteur. Alors cette image-là atroce d'un Dieu vengeur, d'un Dieu qui inspire la crainte, eh bien, que suscite la Providence dans l'Église catholique pour en venir à bout de ce Dieu horrible qui fait déserter les Églises? Eh bien, évidemment, les grands saints du XVIIe siècle et du XVIIIe siècle, les saints Jean-Eudes, les saintes Marguerite Marie et autres, la Compagnie de Jésus qui fait consacrer la Compagnie au Sacré-Cœur et qui fixe comme mission à tous les pères de la Compagnie que d'aller prêcher le cœur de Jésus-Christ et le cœur de Marie à travers le monde, justement pour contrecarrer ces atrocités du jansénisme et de la Réforme, voyez. Et partout, on exalte cette phrase de l'Évangile, voici cette phrase de Sainte Marguerite Marie, de Jésus à Sainte Marguerite Marie, voici ce cœur qui a tant aimé le monde, voyez. À nouveau au 19e siècle, 20e siècle, deuxième assaut de cette espèce de conception misérable de Dieu qui n'a rien à voir avec notre Dieu, sous les coups d'une spiritualité maladroite, néo-janséniste, ou sous les coups d'un espèce de rationalisme très froid qui ne voit en Dieu qu'un premier moteur, et bien voilà qu'un regain de culte du Sacré-Cœur se diffuse à travers toute l'Europe et partant à travers le monde, puisque c'est l'Europe qui à l'époque évangélise le monde. C'est très frappant de constater qu'à chaque époque où nous nous faisons de Dieu une conception très froide et très dure, c'est le Sacré-Cœur de Jésus, ce cœur percé de Jésus, d'où s'écoule l'eau et le sang pour notre salut, qui sont remis en avant dans les rangs de l'Église par la volonté de la Providence. Voyez donc que c'est magnifique qu'en contemplant ce cœur de Jésus transpercé en croix, nous ayons, comme dit saint Paul, la hardiesse de nous approcher de Dieu. Il est notre médiateur. Nous avons auprès du Père un médiateur, c'est ce que nous dit saint Paul. Nous n'avons pas à avoir peur. L'amour du Christ surpasse toute connaissance, nous dit saint Paul. On ne pourrait pas rendre compte, même pas avec cette scène du flanc transpercé du Christ, de tout l'amour, de l'étendue de l'amour de Jésus pour nous. Mais je crois qu'il y a mieux encore que cette mission du Christ de restaurer la confiance en Dieu en montrant sa vulnérabilité par le flanc transpercé. Je crois qu'il y a mieux encore. En fait, l'homme, même avant le péché, était incapable de rendre à Dieu amour pour amour. L'amour de Dieu étant infini, et notre cœur, petit cœur, fini, même s'il n'est pas pécamineux, même s'il ne l'était pas dans l'Éden, eh bien, ce cœur-là, vous comprenez bien, était incapable de rendre à Dieu l'amour qui lui était dû, l'amour que pouvait réclamer légitimement Dieu. Alors, qu'a inventé comme stratagème notre bon Dieu? Bien, il a fait venir son Fils qui, lui, avait un amour purement divin, avait l'amour absolument adéquat pour son Père, et il a fait battre son cœur humain de cet amour divin, afin que, enfin, un être humain aime Dieu comme il le méritait. Vous voyez un peu ces considérations magnifiques qu'on peut tirer de ce cœur sacré de Jésus. Voilà, la créature, par Jésus, est enfin rendue apte à aimer Dieu comme il doit être aimé. On entre là dans rien moins que le mouvement des processions trinitaires en réalité. Vous voyez, nous sommes là, coincés, mais coincés pour notre bien, entre Jésus et son Père. Voilà. Jésus ne nous fait pas seulement part d'un exemple, il ne nous montre pas comment il faut aimer le Père. Regardez comment j'ai fait, imitez-moi, c'est déjà très bien. Non, il nous communique de cet agneau. Son flanc transpercé et ce sang et cette eau qui s'écoule de son flanc transpercé pour nous laver entièrement, pour nous renouveler, c'est ce qui nous permet à nous aussi d'entrer en quelque sorte dans la démarche du Christ, de participer de cet amour infini du Christ pour son Père. Voilà ce qui nous est obtenu, vous voyez, par ce cœur transpercé. Nous rendons à notre tour un amour qui plaît au Père, un amour dont le Père est digne, vous voyez. Et cela est enfin possible pour nous d'accomplir le double commandement. Tu aimeras ton Dieu plus que tout et ton prochain comme toi-même. C'est uniquement parce que le Seigneur Jésus a ouvert, s'est laissé ouvrir le flanc, s'est laissé ouvrir le cœur, et qu'il nous communique cette capacité d'aimer Dieu comme Dieu lui-même s'aime, comme son Fils l'aime, et d'aimer notre prochain comme Dieu lui-même aime notre prochain. Voyez, celui qui croit en moi, dit Jésus, et là on rejoint ce que je viens de vous dire, enfin Jésus me rejoint, je rejoins Jésus plutôt, celui qui croit en moi, de son sein couleront des fleuves d'eau vive. Exactement ce que je viens de vous dire. Celui qui croit en moi, de son sein couleront des fleuves d'eau vive. Pourquoi ? Parce qu'il participera de mon amour pour le Père, et donc il sera capable d'aimer et le Père, et la Trinité tout entière, et son prochain. Vous voyez, alors je ne sais pas si cette contemplation du cœur sacré de Jésus, notamment par l'évangile de Saint Jean, qui est magnifique, vous procure cet effet, mais c'est ce à quoi il faudrait tendre, et je termine avec cette magnifique phrase, d'entendre cela, ils eurent le cœur transpercé. Ça, c'est lorsque Saint-Pierre prêche, juste après la Pentecôte, il est tellement pénétré de cet amour de Jésus, auquel il a été enfin introduit en plénitude par le Saint-Esprit, que, parlant autour de lui, il transperce à son tour le cœur de ceux qui l'écoutent. C'est Dieu, aimant les hommes, qui, à travers lui, transperce le cœur de ceux qui l'écoutent. Voilà ce à quoi nous sommes appelés. Aimer le Père, bien sûr, le Fils et le Saint-Esprit, et aimer nos frères, et vivant vraiment de l'amour qui émane du cœur de Jésus, ce cœur humain et parfaitement divin en même temps, nous soyons aptes à transpercer les cœurs de nos prochains pour qu'ils se retournent à leur tour vers Dieu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.